got a lot of good men.
Un extraordinaire album dont on vient d'entendre un premier extrait, celui de Nico Wayne Toussaint, qui s'appelle Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton. Nico, bonjour.
Bonjour Marco.
Je suis très très heureux de t'entendre à nouveau dans le poste. Ça faisait un petit moment que ça n'était pas parlé et qu'on n'avait pas conversé comme ça à la radio. Et à l'occasion d'un album de Nico Wayne Toussaint, parce qu'il y a eu d'autres collaborations, il y a eu l'album avec Michel Foison il y a quelques temps. Et là, c'est ton disque, c'est ton projet. Et ça, tu l'as mûri longtemps, tu as passé un moment à penser à ce disque-là.
En fait, je pense que je l'ai porté en moi depuis longtemps, mais il y a des moments où ça devient une évidence de faire un projet plus qu'un autre. Et donc, celui-là, cette fois-ci, je me suis dit que si je devais faire un disque, il fallait que ce soit ça.
Mmh, c'était le bon moment. C'est ce que tu dis dans la vidéo de présentation du disque, au moment où tu travaillais outre-mer. Tu avais le temps, hein, finalement, de réfléchir à des nouveaux projets musicaux. Et tu t'es dit, carrément, c'est ce genre de choses qu'on devrait faire plus souvent. Qu'est-ce qui me plairait de faire? On se pose, on écoute son cœur, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais. Ouais, parce que... Depuis que je suis avec Dixie Frog, là, à 98, on avait presque le rythme de sortir un disque tous les ans et demi.
Ouais.
Donc on est vraiment dans la production, c'est super et tout, mais parfois, on produit, sans forcément se demander réellement. Enfin, en tout cas, là, en 2015-16, là, quand j'étais en Guyane, c'était un moment de pause pour moi et je me suis dit, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur?
C'est ça.
Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Voilà, c'est ça.
Et alors, ça a été une évidence, le répertoire de James Cotton. Tu nous rappelles quand même que tu l'as bien connu, tu l'as approché, tu as fait plus que ça. Tu as joué avec ces musiciens. En 2004, il y a un album live qui est sorti qui était fabuleux.
Oui, donc il y a des gens qui l'ont bien plus connu et côtoyé et approché que moi. Et moi, c'est extrêmement anecdotique finalement, ma rencontre avec Cotton. Mais étonnamment aussi, c'est un personnage qui m'a habité depuis que j'ai découvert l'harmonica.
Mmh. Et ça, donc, ça remonte à quelques années. Hein.
Ouais, de l'âge de 15 ans, ouais. Ça devait être dans les années 80, fin des années 80, ouais. Mmh. Donc, et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment un écart finalement entre la place que James Cotton a pris dans ma vie et la rencontre réelle qui a eu lieu effectivement, mais qui aurait pu... Si ma relation à Cotton n'était que ces 4 jours que j'ai passé à le suivre, et puis c'est ce morceau que j'ai partagé avec lui, peut-être j'en aurais quasiment pas de souvenir. Seulement, il se trouve qu'en amont, 15 ans avant et pendant 15 ans, j'ai écouté sa musique, j'ai vraiment orienté mon travail artistique, toute ma vie musicale, je l'ai vraiment orienté en fonction de lui, quoi. En fonction de lui, de sa manière de jouer, et surtout de ce que je m'imaginais, en fait, tu vois, puisque quand tu vois pas les gens, tu t'imagines.
Oui.
Et finalement, l'imagination, c'est parfois plus créatif et plus fort que la rencontre en elle-même.
Bah oui, parce que là, on est à une époque où on n'a ni Internet, bien sûr, ni YouTube, par définition, et forcément, les vidéos sont rares, on a des VHS qui traînent, mais il faut se les procurer, il faut les acheter.
Oui, et puis on voit jamais James Cotton, c'est pas l'artiste qu'on voyait à l'époque, on pouvait trouver des vidéos de Albert Collins ou B.B. King, mais des harmonicistes, pas du tout, donc je n'avais aucune idée de ce que le personnage pouvait générer sur scène,
ouais.
Si ce n'est 2-3 photos à l'arrière d'une couverture de CD, quoi. Et la musique que j'entendais, et donc après, moi, je me faisais un film, et ce film, il m'a réellement nourri, et donc il y a une part un peu, c'est rigolo, ouais. C'est un truc un peu spécial, ouais.
Et quand tu l'as vu, quand tu l'as côtoyé, quand tu as eu l'occasion de jouer avec ces musiciens, est-ce que c'était conforme à l'idée que tu t'en faisais?
Moi, quand je l'ai vu, c'était en 2003, et il avait été opéré des cordes vocales.
Oui.
Donc, c'était plus du tout le show que j'avais écouté pendant des années de James Cotton électrique en tant que chanteur, soit avec son big band, soit même l'album produit chez Antoine, la Mighty Long Time, qui était remarquable. Ça n'avait rien à voir de ça, puisqu'il chantait plus, donc il était tout le temps en observation de ses guitaristes et chanteurs, que ce soit la Malène ou que ce soit Tom Holland, pour voir comment est-ce qu'il se repassait le lead et comment lui il allait reprendre le solo au milieu du morceau. Enfin, ils agissaient un peu beaucoup au regard et je me rendais compte que Cotton aurait pu ne pas être dans le concert et le groupe aurait été super. Donc pour lui, je pense que c'était un challenge aussi d'arriver à maintenir sa place alors qu'il chantait plus et qu'il était assis et voilà.
Et diminué et puis effectivement
plus, ouais, c'est ça.
Plus du tout dans les mêmes critères hein, que l'époque où tu as pu l'admirer au début. En quoi est-ce que James Cotton est un harmoniciste particulier, Nico?
Je dirais que c'est un harmoniciste assez techniquement assez limité et qui pourtant a été capable de fabriquer Bruce Iglauer, avec qui je suis en contact depuis quelques semaines autour de ce disque-là, oui. M'a envoyé un mail où il me faisait ce commentaire justement, mais il a développé un espèce de jeu d'harmonica qui passe partout, qui font un peu comme Junior Wells aurait pu le faire aussi, mais ou un peu comme comme Stevie Ray Vaughan et Albert King, les bands de ces musiciens-là peuvent fonctionner dans n'importe où. Tu les mets avec Madonna, tu mets ça avec... ça va fonctionner, ça va marcher. Et Cotton a fabriqué ce style d'harmonica qui est extrêmement répétitif. Ça tourne autour des mêmes plans tout le temps. Ouais. Et pourtant, ça fonctionne dans un maximum de situations.
Et ça
génère toujours un espèce de coup de poing. Ça génère vraiment... Ça cherche pas. Il y a toujours un résultat garanti quand Cotton de l'armo, quoi. Ça, c'est super.
Tu évoques Junior Wells. Si on rajoute James Cotton et puis deux autres que tu connais par cœur, ça nous donne Harp Attack, un album de chez Alligator, 1990. Hein, donc, on complète avec Carrie Bell et puis Billy Branch. Voilà, Billy Branch qui, lui, a un son bien particulier. Hein, pour le coup, c'est voilà, des artistes très, très marqués, hein, contrairement à ce que tu en dis sur James Cotton. Ce disque-là, dans lequel figurait James Cotton, qui prenait sa part à 25%, hein, comme les autres, est-ce que c'est un album qui t'a particulièrement marqué dans ton jeu d'harmonica et en tant qu'auditeur simplement de cette musique-là?
Non, ce disque-là, je l'ai beaucoup écouté, mais il ne m'a pas marqué.
Non.
Mais je dirais que certains disques m'ont beaucoup, beaucoup plus marqué, comme le Hard Again,
ouais.
Où je découvrais cette espèce de polyphonie musicale où les musiciens chorussent les uns par-dessus les autres. On ne sait pas exactement qui fait un solo et ça se répond et c'est... C'est polyphonique, c'est-à-dire qu'ils font tous quelque chose en même temps. C'est un peu comme du Dixieland aussi, où on a et la clarinette, et la trompette, et éventuellement le sax soprano et tout ça, qui jouent tous ensemble, mais sur des lignes différentes. Et dans Hard Again, c'est flagrant, quoi. C'est un volcan en ébullition, tout le monde se bat, joue des coudes pour se faire entendre. Donc ça a vraiment été très, très fort pour moi. Et après... chez James Cotton, pas tant le Live in the Move, mais un disque que j'ai découvert plus tard de lui qui s'appelle Live at Electric Ladyland,
oui.
Qu'on peut écouter maintenant en intégralité sur YouTube.
C'était chez Buddha Records, ça remonte aux années 76. Ouais,
et qui est monstrueux parce que James Cotton a un son électrique qu'on entend, avec lequel on entend rarement jouer finalement. Et il y a quelques morceaux sur lesquels il prend des choruses supplémentaires, ce qui est aussi assez rare chez lui. Parce que c'est vraiment un harmoniciste minimaliste dans la quantité de solos qu'il fait. Et là, il nous en donne un peu plus. Et il y a une énergie que... C'est un peu le même set que Live in the Move, mais c'est mieux joué.
Et pour compléter,
c'est mieux enregistré.
Pour compléter, il y avait également High Compression, qui date de, je ne sais plus, 84 ou 5 chez Alligator
Records.
Oui,
avec Magic Slim.
Oui, voilà, qui est lui aussi assez costaud dans son genre. Le répertoire autour de James Cotton, je pense que voilà, ça n'a pas été forcément simple de réunir 13 titres un peu emblématiques, qui ne sont pas tous signés James Cotton, loin de là d'ailleurs, mais ce sont des morceaux qu'il a contribué à populariser. Si je pense par exemple à Rocket 88, on n'en est pas à la toute première version de ce truc. Il y a un morceau d'Alan Toussaint également. Comment on fait pour choisir, parce que finalement sur un concert on peut aller jusqu'à 20-22 morceaux au grand maximum, mais là on se limite à 13 titres sur ce disque. Comment tu as fait pour couper les branches finalement, parce que j'imagine que ça a été comme ça?
En fait, j'ai voulu choisir des morceaux emblématiques, mais pas que, et mon groupe je l'ai fondé autour du live in Chicago. Mais puisque c'était que des enregistrements live, ça servait à rien de les reproduire dans un album studio. Donc finalement, le seul titre que j'ai maintenu de ce live from Chicago, c'est Midnight Creeper, qui est une version publique aussi, avec des cuivres. Et sinon, je pouvais pas tout, ça servait à rien de mettre que les morceaux emblématiques, parce que sinon, il y a des compilations que lui-même a déjà faites, quand, pour son 35e anniversaire, par exemple.
Tu voulais pas tomber dans le best-of, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, ça m'intéressait d'aller puiser certains morceaux qui m'ont plu dans les faces chez Vanguard, là, notamment Born in Missouri. Mm-hmm. Mais aussi d'aller chercher des choses où il n'est pas harmoniciste, notamment les morceaux d'Alan Toussaint là, sur l'album High Energy, oui. où on l'a fait enregistrer avec un producteur à la Nouvelle-Orléans et il joue quasiment pas d'harmo. Et en même temps, ça me tenait à cœur de montrer aussi, de rendre hommage à l'harmoniciste à travers How Long Can a Fool Go Wrong. Et voilà. Donc, je voulais. Et puis, le groupe que j'ai. C'est avant tout aussi un groupe à 8. On peut jouer à 5, mais c'est avant tout un groupe à 8. Donc, c'était important pour moi que le disque montre les faces cuivrées de James Cotton aussi.
D'accord. Et ben justement, tu parles des 8, le octet que tu as réuni, on peut les citer tous. On évoquait Michel Foison, un garçon avec qui tu as partagé maintes et maintes choses. Notre ami commun Jacques Gasser m'en a beaucoup parlé, m'a même montré des vidéos dossiers qui datent d'un peu plus de 20 ans.
Ouais, bien sûr. Mon premier concert payé, je ne chantais pas encore à l'époque, je l'ai fait avec Michel, c'était en 93.
Voilà. Exactement. Michel Foison qu'on retrouve ici à la guitare électrique. On va les citer. Tiens, tu vas nous peut-être
après,
dire
après, donc, c'est Antoine Perrut qui est à la basse, et donc avec Antoine, on est ensemble depuis 11 ans. Il a participé à peu près à tous mes derniers disques, depuis Southern Wind. Ensuite, le batteur est un jeune batteur de ma région, mais avec lequel on a une relation aussi depuis longtemps, et qui s'est vraiment officialisé là dans cette formation du Big Band, c'est Romain Gratalon.
Une relation presque filiale, j'ai envie de dire.
Oui, parce qu'en fait, sa maman l'a amené à mes concerts alors qu'il ne jouait pas de batterie encore.
Et maintenant, c'est ton batteur, quoi, c'est ça qui...
Et maintenant, voilà, c'est ça. Et on était à Marciac ensemble devant 5000 personnes.
Avant de parler de Marciac, après, on va en parler, bien sûr.
C'est rigolo. Ouais. Après, donc, le pianiste, c'est un copain du lycée qui m'a introduit à l'harmonica la toute première fois. Donc, c'est Jean-Pierre Legout. Oui. Et ensuite, donc ça, c'est le quintet de base. Et ensuite... J'ai appelé Sébastien Arruti, qui avait déjà travaillé avec moi quand on avait fait le Transatlantic Live il y a plus de 10 ans maintenant. Et je lui ai demandé s'il pouvait me reconstituer une équipe. Et donc Sébastien Arruti, qui joue du trombone, est venu avec Pascal Drapeau, qui est trompettiste, et Cyril Dumont, qui est saxophoniste.
Voilà, on a tout le monde, et on a tous ces gens-là qui groovent comme des diables. Alors, on parle de ce fameux live à Marciac, c'était fin juillet dernier, le live a été diffusé sur Facebook, vous avez volé la vedette à Didi Bridgewater, qui se protégeait juste derrière quand même, faut le savoir.
Ouais, bon...
Mais si.
C'est genre, oui, c'est possible. Ah, oui. Pour certaines personnes.
Attends, ouais. Mettre tous ces gens debout, il y avait combien de personnes devant toi à ce moment-là?
Oui, je crois que en fait, moi, je pensais qu'on était à 3500, après, on était à 5000 ce jour-là.
Ah oui, d'accord, voilà. D'après les organisateurs ou d'après la police, ça dépend toujours. 5000 personnes.
Non, en fait, c'est les organisateurs qui m'ont corrigé. Non, mais là, ce jour-là, il y avait 5000. Ah oui. Ah bon, d'accord. Okay.
Mettre debout 5000 personnes, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes français, hein, soyons précis, qui en sont capables. Voilà, c'est le genre de choses, le genre de challenge qui te plaît, qui te donne de l'adrénaline encore un petit peu, je pense, à tous les endroits dans lesquels tu peux te produire. Tu continues à jouer dans des petits endroits, mais 5000 personnes, voilà, il faut les tenir.
Oui, bien sûr. Bon, après, on avait déjà fait Montréal.
Montréal, c'est peut-être 10 000. Ouais, pas loin de 20 000, je sais plus. Ouais.
La scène qu'on a faite, c'était, je crois, ils font un maximum de 10 000, donc on était entre 8 et 9 000.
Quoi. D'accord. Voilà.
Mais non, c'est-à-dire qu'à Marciac, c'était particulier parce que je suis attendu. Et en même temps, quand on est attendu, on peut décevoir facilement. Parce que les gens, ce sont déjà tout un monde de ce qu'ils vont voir, puisqu'ils vous connaissent. Et donc, il faut arriver à leur donner ce qu'ils espéraient voir, tout en les surprenant, parce que sinon ils vont dire « Ah oui, finalement, on le connaît, tout ça. Oui. » Et le challenge, c'est qu'ils repartent en disant « Waouh ! Ah ouais, d'accord, c'est il ça. Nous a encore, il a mis encore la barre plus haute. » Et donc, ouais.
Les gens qui diraient, en repartant des concerts, disent « On sait pourquoi on est venu, et puis on sait pourquoi on a encore envie de revenir, quoi. » C'est ça aussi.
Oui.
Un artiste, je voudrais compléter juste ma question, Nico, si tu permets. Un artiste, à mon avis, doit savoir fidéliser son public.
C'est important. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Un artiste ne vit réellement que s'il a filé des mains publiques, on va pas se mentir. On vit sur les entrées au concert, on vit sur les ventes de disques éventuellement, on vit sur donc le fait que les gens viennent. Et tu vois, c'est rigolo, mais il y a quelques jours, j'ai regardé pour la première fois Bienvenue chez les Ch'tis.
Ah oui, c'est vrai, je t'ai vu demander ça, oui, oui, effectivement.
Ouais, ouais.
Vas-y.
Et j'ai appris que Danny Boone avait fui la cérémonie des Césars, parce que finalement, même s'il avait fait 20 millions d'entrées, il était nominé à aucun prix, si ce n'est celui du scénario, donc il a préféré ne même pas y aller, ils n'ont rien gagné.
Ouais.
Et après avoir vu le film, eh ben, quelques jours après, je continue à penser aux personnages, parce qu'ils sont extrêmement attachants. Et je crois que ce qui fidélise un public, c'est quand les gens s'attachent. Alors parfois, la dimension artistique n'est pas forcément... je ne sais pas à quel point est-ce qu'on juge l'artistique, mais peut-être le monde de la critique spécialisée va préférer des artistes un peu plus froids et un peu plus...
Technique.
Distants. Distants, je dirais aussi.
Ouais, ouais.
Mais je crois que le public aime à s'attacher à certaines personnalités.
S'attacher,
en demande.
S'attacher et peut-être s'identifier à un certain degré.
Alors ça, c'est autre chose encore, mais en tout cas, s'attacher. Que les gens, je pense que le public veut une rencontre humaine, alors que le monde spécialisé veut une rencontre artistique, une rencontre technique peut-être, une rencontre, disons, qui se situe sur un autre registre que celui du cœur ou que simplement de celui de l'humain.
Ouais.
Et donc, je pense que pour réussir à fidéliser un public, il faut développer ce... Et on ne se force pas. Je veux dire, je pense que moi, ça me coûte rien de monter sur scène et de sourire aux gens, parce que je le fais. Enfin, alors si ça plaît aux gens, tant mieux.
C'est ça. Alors, oui, voilà, ben, je crois que tu résumes bien un peu l'idée que les gens se font de ce que tu es, parce que tu ne fais pas que jouer de la musique, tu la vis, mais tu es ta propre musique. Je pense que tu es ton harmonica quand tu joues de l'harmonica aussi.
Mais moi, je suis... moi, en fait, avant de jouer moi, je veux jouer les gens qui m'inspirent. Et j'essaie toujours d'être le canal qui peut, l'espace d'un solo, ou d'un concert, ou d'un morceau, redonner vie à l'un des géants qui nous a précédés, quoi.
Ben c'est,
et qui m'inspire.
C'est exactement le rôle de l'acteur. Tu parlais de cinéma tout à l'heure. Tu incarnes, en quelque sorte.
Voilà, probablement. C'est ça.
Alors
l'acteur ne fait que jouer un
rôle, oui, un script.
Voilà. Donc, on aime toujours souvent aussi de l'authenticité chez les bluesmen, chez les musiciens, en particulier avec le blues. Donc, c'est un jeu un peu dangereux que celui de jouer l'acteur, parce que il y a une part d'acteur et puis il y a une part aussi de sincérité. Voilà, c'est toujours une alchimie un peu particulière.
Mmh. Pour revenir sur des choses un petit peu différentes, parce qu'il y a des questions qui se bousculent, tu sais, de l'autre côté des réseaux sociaux. J'avais proposé aux auditeurs tout simplement de poser leurs questions en direct. Et j'ai l'ami Pedro, qui sait, qui organise en Bretagne un petit festival qui s'appelle le Bayou Braise Festival, qui me disait, moi je ne vais pas pouvoir faire Nico, il n'y aura pas assez de place dans mon jardin, ça c'est fait. Et qui dit, comment ça se fait que Nico a toujours représenté un État américain pour l'IBC? Alors, on va expliquer pour les gens, l'IBC, donc l'International Blues Challenge de Memphis, qui a lieu tous les ans en janvier-février, et qui récompense des blues societies. Et c'est vrai que tu t'étais inscrit une fois au titre d'une société de Floride, et une autre fois pour la Californie. Ça a l'air de l'intriguer, notre ami Pedro.
À l'époque, c'était en 2010, la première fois où je me suis présenté pour la Floride, et il n'y avait pas de compétition. Il y avait encore une espèce de sélection par des votes de celui du groupe qui partait.
Ouais.
Et deux fois, je me suis mis en lice, et puis on choisissait des groupes différents. Et ça m'a vraiment gonflé, parce que j'avais l'impression d'être plus légitime que les autres pour aller défendre ça sur le terrain américain.
Mmh.
Et du coup, je me suis dit, la prochaine fois, c'est fini, je vais jouer le jeu à l'américaine. Au moins, si les gens me voient sur scène, il y a une chance que, qu'il me donne mon billet pour y aller, quoi, et qu'on ne soit pas dans des petites élections amicales, pseudo trucs machin, et au final ça voilà. Donc je me suis inscrit en 2010 pour la première fois, ou alors c'était 2009 peut-être pour l'année 2010, et puis j'ai gagné mon billet fièrement. J'y suis retourné une deuxième fois en Floride en duo avec Michel, j'ai refait une compétition, j'ai gagné. Et puis quand j'ai voulu aller avec le Mighty Quartet, je me suis pas représenté en Floride parce que je voulais pas être, que ce soit trop redondant. Donc j'avais vécu à Los Angeles, donc je me suis inscrit à la Blues Society de Los Angeles. Et c'est la bataille des 20 blues bands. Et tu vois, Florian Royot, tout ça pourra te le raconter aussi. Oui. On a pris l'avion, on est arrivé à Los Angeles, on est allé s'acheter des instruments de musique parce qu'on avait voyagé sans guitare, sans basse. Et on a pris une voiture de loc et on est arrivé à notre lieu de concert et on avait 14 minutes, pas 15, hein, 14 minutes. Et on était un parmi 20 groupes.
14 minutes pour défendre un répertoire, 14 minutes pour convaincre un jury, c'est bien de ça que tu nous parles.
Exactement, exactement. 14 minutes et on a gagné. Et donc on est parti représenter la Californie du Sud à Memphis et c'est l'année où on a fini troisième.
C'est énorme.
Troisième sur 120 formations.
C'est énorme.
Voilà, donc moi j'aime ce genre de challenge, j'aime essayer de remporter les challenges un peu idiots, hein. On n'est pas revenu plus riche, mais on est revenu convaincu que ce qu'on avait...
renforcé également...
Convaincu, voilà, que ce qu'on avait, ça marchait là-bas, quoi, point, c'est tout, quoi. Oui. Et qu'on avait notre place, et il n'y avait rien à... Il n'y avait pas de discussion.
Est-ce que tu penses que parmi cette compétition au niveau de l'International Blues Challenge, tu penses que malgré une ou deux incursions d'Européens, je crois qu'il y a eu un duo allemand en acoustique et puis Stéphane Bertolino au titre de l'harmonica qui a eu un prix, et puis toi bien sûr, est-ce que tu penses que c'est possible pour un groupe français, alors je parle d'un quartet ou d'un quintet, de remporter la compétition? Ou est-ce que tu penses que c'est définitivement bâché parce jury...
Non. Non, moi je pense que
c'est ouvert.
Cette compétition, elle peut récompenser qui que ce soit qui sera capable d'emballer le public. Les Américains sont des supporters nés en fait, et ils ont envie de croire, ils ont envie de rêver, ils ont envie de se faire emporter. Si t'es capable de leur amener ça, eh ben ils te suivront. Ouais. Tu vois, personne ne nous connaissait en Californie quand on est débarqué. On a commencé et les gens nous regardaient.
On te capte, excuse-moi Nico, on te capte moins. Je sais pas, tu as dû changer dans le placement. Voilà, ça passe toujours, mais ouais, c'était de moins bonne qualité.
Et 14 minutes après, ben tout le monde nous aimait. Donc voilà, les Américains sont comme ça et ils le seront aussi à Memphis, tout pareil. Même le jury, ouais.
On va revenir, Nico, sur cet album, Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton, qui sort le 13 octobre prochain chez Dixie Frog Borderland Blues. Tu le soulignais tout à l'heure en début d'interview, cette collaboration avec Dixie Frog, elle dure depuis presque 20 ans, 1998 pour ton premier album chez eux. C'est une histoire de fidélité, bien sûr, avec Philippe Langlois, et puis également avec David Isaac, qui est maintenant à la tête de Borderland Blues. Comment se passe la collaboration entre le Nico Wayne Toussaint qui enregistre des disques et le Nico Wayne Toussaint qui tourne et qui fait des concerts? Est-ce qu'il y a un rapport avec Dixie Frog ou est-ce que c'est uniquement la partie album avec lequel tu travailles?
Pour l'instant, on ne travaille pas ensemble avec David. Je ne travaille qu'avec Philippe par rapport au disque.
D'accord, voilà. Et donc, alors, là, ce disque-là sort très bientôt. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des dates qui accompagnent cette sortie? Et surtout, j'allais dire, avec le octet avec lequel tu continues à tourner, est-ce que vous allez inviter Bonnefils, qui se trouve sur un des titres?
Alors ça, c'est l'un de mes projets, mais pour l'instant, on l'a pas encore fait.
Ouais.
Il va y avoir de très belles dates à venir pour l'été 2018, mais je ne vais pas déflorer quoi que ce soit, mais je suis très très content. Il y a des choses qui se profilent, qui vont être super. Et puis le challenge, c'est de faire vivre un groupe à l'année, notamment un groupe à 8. Donc l'année dernière, on avait un concert mensuel à Bordeaux, mensuel à Bayonne. Déjà, donc maintenant, il faut que mon objectif, c'est de relancer des concerts mensuels du groupe dans certaines de ces grandes villes pour nous donner une régularité, une constance de travail, quoi. Voilà.
Oui, ça veut dire que travailler à 8, on le sait bien, pour la plupart des artistes, quand on a des cuivres, quand on est un musicien cuivré, il faut faire partie de plusieurs orchestres, on fait aussi du jazz, on fait aussi du reggae, peut-être, pourquoi pas. Là, ce que tu veux faire, c'est souder cette section de cuivre et puis faire en sorte qu'ils jouent très régulièrement avec toi.
Voilà, c'est ça, pour que quand on arrive sur des gros rendez-vous, ben, ce soit pas, on n'est pas les jambes qui tremblent, quoi. Qu'on soit dans la mouvance de ce qu'on a fait la veille ou de ce qu'on a fait la semaine précédente, et boum, voilà.
Tout à fait.
Ce qu'on a réussi à générer en arrivant à Marciac, c'est ce qui aussi nous a permis d'en profiter autant sur un concert qui avait quand même un certain poids de pression, en termes de pression. C'était facile, c'était super. Donc l'idée maintenant, c'est de continuer à travailler le répertoire, étendre le répertoire et continuer à avancer, quoi.
Très bien. Je voulais aussi t'annoncer, peut-être que tu n'étais pas encore au courant, David Isaac va m'envoyer 5 albums, donc il y aura 5 disques à gagner pendant quelques semaines, comme ça, sur le site internet de l'émission. Cet album, Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton, donc merci à lui, merci à toi aussi, bien sûr, Nico, de nous faire ce plaisir pour les auditeurs. L'album sort le 13 octobre prochain, il va être distribué partout, j'imagine.
Oui.
Comme d'habitude.
C'est pas possible.
Partout où il y a, partout où on continue à vendre des disques. Est-ce que tu penses que ça va continuer à évoluer dans le sens de moins en moins d'albums, de plus en plus de téléchargements? Est-ce que tu penses qu'on va vraiment dans ce sens-là, ou est-ce qu'il y a vraiment un retour du vinyle, par exemple? Comment tu vois les choses d'ici 5-10 ans, Nico?
Je trouve que c'est très rigolo, on marche sur la tête. Là, je suis rentré à la Fnac, et maintenant, il n'y a pas beaucoup de CD, ils sont tous bradés, et y a un rayon vinyle qui reprend... C'est à n'y rien comprendre. Franchement, c'est comique. Et en même temps, il y a la version numérique. Moi, je me suis racheté une platine vinyle et je réécoute mes disques et j'ai du plaisir à le faire. Parce qu'il y a un plaisir physique aussi à ne pas être dans l'illimité. Un vinyle, ça, en gros, ça dure entre 15 et 20 minutes. Et puis au bout de la face A, ben, ça s'arrête, en fait. Et il y a une vraie relation au temps, une vraie relation physique qu'on avait oublié avec le numérique ou avec Spotify, où tu peux avoir... 15 disques qui s'enchaînent les uns les autres. Donc, je sais pas, quand les gens... ça dépend de ce que les gens ont envie d'écouter, de faire, et s'ils ont envie de payer un peu d'argent pour continuer à écouter la musique, ou s'ils espèrent toujours se faire rincer gratuitement, je sais pas.
Ouais. On verra. Je voudrais terminer avec une remarque de notre ami commun Jacques Gasser, qui lui réside près de Pau. Toi, c'est dans cette région-là que tu vis. Visiblement, c'est pas facile de jouer sur Pau pour toi.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Alors, je vais te dire simplement ce qu'il écrit, Jacques. Le dernier disque de Nico est remarquable, voire excellentissime. On y perçoit sa passion, la fureur du blues, et les spectateurs-auditeurs ne s'y trompent pas. Il est fort dommage que certains directeurs et programmateurs de grands festivals pensent que Nico ne peut pas générer public en dehors de la grande région paloise. Je suis outré, dit Jacques, quand j'entends ce genre de propos, quand on connaît l'évolution de sa carrière. Voilà.
Oui, quelqu'un, je crois qu'il a discuté avec quelqu'un dont il n'a pas voulu me dire le nom et qui lui a dit « Oh, mais Nico, il fait du monde que dans le sud-ouest ». Bon,
c'est peut-être ça qu'il a entendu.
Peu importe, c'est pas une personne. Comme ils disent en anglais, one monkey is not gonna stop the show.
Ça ne te touche pas, ce genre de choses, mais c'est très bien, c'est pas ça qui va t'empêcher d'avancer.
C'est pas une personne qui va arrêter un mouvement, bon, il n'y a pas de problème.
Exactement. C'était une excellente réponse, Nico. Je souhaite bien sûr longue vie à ce disque. Et puis en tout cas, moi, je forme un vœu, c'est qu'on puisse te voir très prochainement de ce côté-ci de la Loire. Hein, parce que le sud-ouest, c'est joli, c'est beau. Mais voilà, il faut venir nous voir, Nico.
Vraiment. Il me semble que tu tiens certaines manettes qui pourraient faciliter notre montée jusque dans vos territoires.
Je crois aussi. Il me semble que voilà, j'ai dans mes amis très proches un programmateur qui est fortement intéressé par ce octet, Nico.
Donc, peut-être en 2018, là, avant juin, on pourra se retrouver.
Il va falloir, évidemment. Nico, merci pour ta gentillesse et ta disponibilité, comme d'habitude, et puis ton professionnalisme qui n'est jamais pris en défaut. Et puis bravo pour cet excellent album qui est maintenant disque du mois. À partir de demain, c'est octobre, et on va l'écouter dans les deux émissions du mois d'octobre. Merci à toi, Nico. Je sais pas
merci
si j'ai...
Marco, et merci à tous les auditeurs.
Est-ce que j'ai oublié de te poser une question, quelque chose que tu aurais souhaité nous annoncer, nous dire?
En fait, pour l'instant, je laisse tout le monde parler du disque, et il y a une petite... anguille dans le disque et personne ne le voit.
Ouais.
Et ça m'a fait rigoler. Donc je me dis, il y a bien un moment quelqu'un qui va me poser une question par rapport à quelque chose de bien particulier qui est dans le disque et qui devrait.
Est-ce que tu penses que c'est en train de trop dévoiler le truc?
Non, je me dis, tiens, c'est surprenant.
C'est pas la petite coquille qui concerne l'année d'édition de l'album.
Non, c'est pas ça que tu parles. Hein. Une coquille beaucoup plus grosse. Enfin, c'est même pas une coquille, hein, mais c'était. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça et je vais voir si les gens le voient. Et pour l'instant, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas assez James Cotton pour relever.
Sûrement. Voilà, je pense que je fais partie des gens qui ne connaissent pas assez James Cotton. On est bien d'accord, Nico, effectivement.
Allez, écoute, puisque je suis en ligne, je vais te la dire. C'est que j'ai mis dans le disque un titre qui n'a jamais été chanté par James Cotton. Et donc, pour un hommage à James Cotton, c'est rigolo parce que... Mais ce titre-là, je l'ai mis parce qu'il vient de Bobby... Enfin, moi, ma version, c'est celle de Bobby Bluebell.
Ah, tu parles de Rivers Invitation?
Non, parce que celle-là, il est enregistrée.
Bah oui, bien sûr, oui. Today, I started loving you again, non plus.
Voilà, c'est ça.
C'est ça?
Et cette chanson-là... Elle vient de Bobby Bland et je me suis dit que Cotton il aurait tout à fait pu la chanter. Et s'il l'a pas fait, c'est soit que aucun magnéto n'a tourné le jour où il l'a joué, ou alors que ça c'est pas l'occasion, c'est pas présenté. Mais pour moi, elle appartient intégralement au projet, alors que pourtant elle figure dans aucun disque. Voilà.
Et pourtant, il est attribué à Merlagar sur tes notes de pochette.
Ah bah oui, c'est lui qui l'a écrit.
Voilà, d'accord. Okay.
Mais ça a dépassé le cadre de la country music.
Très bien. Et ben voilà, ben je suis tombé dans le panneau, comme peut-être d'autres. Et puis maintenant, si les autres chroniqueurs à toute l'émission.
Cette remarque de me dire, mais il a enregistré ça où quand est-ce qu'il a joué cette chanson ou sur quel album? Personne ne me l'a jamais dit.
Je t'ai pas posé la question. Effectivement. Nico, merci encore pour tout. Et puis, on va écouter un nouvel extrait. On va écouter le tout début de l'album, celui que tu partages avec Bonnet Fields, chanteur et trompettiste, qui s'appelle No Cutting Loose. Merci, Nico. À très bientôt.
À très, très bientôt.
Au revoir. Baby, if you wanna know the truth. il faut imaginer ça en live. Hein. C'est un album studio, bien sûr, mais on l'a souligné tout à l'heure pendant l'interview. Ce répertoire-là a été fait en live, notamment sur le festival de Marciac. Si vous voulez vous rendre compte de ce que ça donne, vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement Nico Wayne Toussaint live in Marciac. Et c'est vrai qu'il a volé la vedette à Didi Bridgewater qui passait juste après. Il s'est offert un bain de foule. Enfin voilà, un morceau supplémentaire. C'est, oh, putain, tout le monde en voulait, etc. Il a explosé le timing du festival sans non plus forcément déplaire à la dame qui suivait, qui a bien sûr assuré son show à elle comme il se doit. En tout cas, voilà, je pense que vous l'avez entendu comme moi. Il va falloir surveiller les programmes du Soubok. Avant la fin de juin 2018, on devrait avoir une bonne chance d'applaudir ce octet. On va se faire un nouveau plaisir avec un nouvel extrait de ce Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton. Voici le titre dont on parlait à l'instant. Today I Started Loving You Again, un morceau qui n'a donc jamais été enregistré par James Cotton.
I am right back where I really, really always been. I got over you long enough to let my heart advance. And today I'll start loving you again. What a fool I was to think that I could get by with only this few million teardrops I cried. I should have known that our worth was yet to come. And crying time for me, I just begun. Loving you again. I'm right back honey, where I really always been. I got over you honey, long enough just to let my heart advance. And today I'll start a loving you again.
Et voilà, c'était la petite scorie dont parlait Nick Owen Toussaint, l'enregistrement live dans l'album studio Nick Owen Toussaint Plays James Cotton, futur disque du mois d'octobre pour Sweet Home Chicago. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tout ça, ça nous a emmené jusqu'à une heure tardive et dans bientôt, il y aura une nouvelle interview. Donc, le reste des nouveautés, ça sera pour après. Parce que, allez, dans 5-10 minutes, on aura Dominique Bouillon au téléphone donc, pour nous parler du 4e festival Bar, B-A-R, Blues d'automne en Rablaisie, à Beaumont-en-Véro dans le 37, avec plein d'artistes qu'on va égrener, bien sûr. Mais en attendant, voici un nouvel extrait du disque du mois de septembre, Mr. Sip.
If the love I have for you lives in you.
Love Don't Live Here Anymore, cet extrait de l'album de Mr. Sip qui s'appelle toujours Knock a Hole in It, disque du mois de septembre pour Sweet Home Chicago. Juste après le titre qui vient, je vais passer un petit coup de fil à Dominique Bouillon. Si vous également vous avez des questions à lui poser ou juste des conneries à lui dire, vous allez sur Facebook et Sweet Home Chicago. Voilà, inscription gratuite. Voici Chris Bergson Byrne, un album, c'est pas n'importe quel album, il a été disque du mois il y a quelques temps quand il est sorti. Chris Bergson, je me réjouis de le revoir, je l'avais découvert il y a un petit peu plus de deux ans au BBC grâce à l'association Backstage, et puis voilà, revu à New York au mois d'août, à revoir la semaine prochaine au bar chez Dominique, et puis ensuite il fera également le Zénith de Caen, ça sera le 26 mai prochain avec son compagnon le chanteur Ellis Hooks. Je veux parler de Chris Bergson, voici le Chris Bergson Band à travers cet album somptueux qui s'appelle Bitter Midnight, et ça c'est la première plage, c'est Pedal Tone.
What's absent, crushed by the weight of what's gone. Space after everything swept down, only the shadows dance on. Pedal tones groan, echo across the empty town square. Window cracked, a little cognac laughter in the night air. The streets seem empty but littered with making my way. Pedal tones groan, echo across the empty town square. Window cracked, a little cognac laughing in the night air. Traveling sideways and down, gotta shake off this X. Spend too much time just sitting around, gotta move on to what's next. Pedal tones groan, echo across the empty town square. Window cracked, a little cognac laughing in the night air. Window cracked, a little cognac laughing in the night air.
Voilà, c'était Chris Bergson, un des artistes qui fera partie de la prochaine édition du bar le Blues d'automne au Rablaisie. Je suis au téléphone avec Dominique Bouillon. Dominique, comment ça va ?
Eh bien, écoute, ça va très bien. On a survécu à une dure soirée à Bretagne hier.
De retour en Rablaisie, après avoir fait une incursion chez l'ami Pedro, peut-être, c'est ça ?
Il faisait partie des killers de la soirée.
Ouais. Entre autres. Donc, c'était au Point Bar, il se passait quelque chose qui a un rapport avec ton festival. Tu nous en parles en quelques secondes, Dominique ?
Oui, ben tous les ans on invite un artiste à venir quelques jours avant notre festival proprement dit pour qu'il fasse des journées de présentation de promotion du festival en des lieux amis à quelques kilomètres, quelques dizaines, centaines de kilomètres aux alentours.
Voilà. Il y avait un petit peu de route effectivement.
Et donc hier on était avec Dave Arcari au Point Bar. Et puis on sera la semaine prochaine, mardi à Angers, mercredi à Thouars, etc. Enfin voilà, on se promène un petit peu pour faire connaître le festival et puis les artistes quand même bien, quoi.
D'accord, tu vas faire partie des gens qui font une super fête à Thouars, c'est bien ça, Dominique.
Nous faisons toujours la super fête à Thouars.
Alors, c'est la quatrième édition de ton festival que tu as choisi d'appeler BAR, B-A-R.
Troisième.
Pourquoi j'ai dit quatrième,
c'est, voilà. Non, mais tout le monde fait la confusion parce qu'on a fait une première édition courte avec Crossing Roads, donc c'est peut-être pour ça.
D'accord. Donc, en fait, on remet le compteur à 3.
Voilà.
Et cette fois-ci, ça dure 3 jours. Ça veut dire que tous les ans, il y a une journée de plus. Dans 15 ans, tu te retrouves avec une quinzaine commerciale, quoi.
Voilà, c'est à peu près ça. Non, mais déjà, l'an dernier, Marc, tu as oublié. Nous étions à 3 jours l'an dernier, déjà. Non, non, on n'augmente pas tous les ans, mais effectivement, bah, comme on est une équipe qui commence à être bien rodée, avec une installation qui, de toute façon, est la même pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, donc c'est vrai que c'est tentant d'augmenter un peu le volume.
C'est clair. On en avait parlé l'année dernière, on avait présenté cette deuxième édition, donc en 2016. Et puis là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau de la prog, ça tape encore un peu plus fort côté charisme des musiciens. On retrouve Sugar et Hayford. Enfin, on va parler des musiciens les uns après les autres, si tu veux qu'on fasse ça de façon chronologique, si ça te va.
Oui, t'as pas de problème.
Alors, ça démarre vendredi 6 octobre, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et pas forcément dès 20h, dès la fin de l'après-midi, il va y avoir des concerts. Il y a 2 lieux, en fait, si on veut être bien précis.
Bah, en fait, non, il y a le lieu principal où se déroulent tous les concerts payants. Et puis, à l'extérieur, on a un lieu qu'on appelle le village artisan. C'est un lieu dans lequel expose... Bon, nous, on est une vraie asso qui compte 700 membres. Donc, on a beaucoup d'artistes qui sont dans l'asso, des peintres, des photographes, des sculpteurs, ce qu'on veut. Enfin bon. Et donc, on a fait un lieu exprès pour eux à l'extérieur de la salle.
D'accord.
Où ils peuvent exposer ce qu'ils font. Voilà, c'est un retour un peu aux adhérents de l'association. Et puis, sur ce lieu, on organise toute la partie restauration. Et puis, il y a aussi une scène extérieure qui permet... aux artistes d'assurer un interscène, parce qu'à chaque changement de plateau, il faut qu'on a une demi-heure de battement, trois quarts d'heure de battement, donc voilà, ça permet de... Donc on invite des artistes à se produire sur la scène extérieure, hein, qui n'est pas du tout une scène de second niveau, parce que tous les festivaliers en général sont là pour aller boire un coup, fumer un club entre deux concerts, donc voilà.
Voilà, donc ça veut dire que quand on va à l'extérieur de la salle pour, comme tu dis, boire un coup, fumer un clope, on a aussi la possibilité d'avoir un petit peu plus que de discuter avec les copains, ce fameux village des artisans, comme tu l'appelles, et puis du live. Alors, si on déroule un peu la programmation, pour le soir du vendredi 6 octobre, on démarre avec Chris Bergson, ce qui est une très très belle chose. Hein, tu sais que c'est un garçon qui fait partie de mes artistes favoris. Et ensuite, tu te payes un Belge en la personne de Guy Verlaine, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire que, en fait, toute la programmation qu'on a faite cette année, notre axe de programmation, c'était de faire un best-of des 5 premières années de programmation du temps des Chris. C'est-à-dire qu'on a... on finit la 6e année, mais bon, quand on a commencé la programmation, on était sur les 5 premières années du temps des crises, et on a choisi les gens qui nous ont le plus éclaté dans la salle. Le temps des crises est un petit lieu, hein, 200 places, mais on reçoit beaucoup de beau linge, on va dire, et on a voulu faire ce festival en disant, voilà, on va montrer ce qu'on fait au temps des crises. C'était aussi pour inciter les gens du temps des crises à venir au festival, parce que les gens qui sont dans les clubs vont pas toujours dans les festivals, il y a souvent des petites réticences. Donc on a choisi 10 artistes qui sont déjà passés chez nous, qui nous ont laissé une excellente impression aussi bien sur la scène que backstage, on va dire, enfin des gens qui se comportent bien dans la vie et qui sont des gens adorables. Donc c'était notre axe de programmation. On commence par Chris Bergson et puis on passe à Guy Verlaine, qui ont laissé un souvenir, je ne vais pas dire impérissable, faut pas, mais bon, un grand souvenir.
Un grand souvenir de passage.
C'est des artistes majeurs, ce sont des artistes majeurs et avec un talent, une inventivité, une originalité aussi.
Ça me rappelle un petit peu la démarche qu'avait faite Laurent Bourdier en 2015 quand il avait fait la 10e édition du Buis Blues Festival. Il avait fait un best-of personnel des artistes qu'il préférait pour faire cette 10e. Justement, il n'y avait absolument aucune découverte, mais que de la crème. C'est un petit peu ce que tu fais. Alors tu dis que la programmation n'est pas tout à fait la même. Si tu dis que les gens qui vont habituellement dans ton club ne vont pas forcément dans le festival que tu organises, je pense que le contraire est vrai également.
Oui.
Hein, parce que là, tu vas recevoir des gens qui viennent de loin.
Oui, tout à fait. Là-bas, de toute façon, on a pour l'instant 2 fois plus de réservations que l'an dernier. Avec des gens qui viennent de Belgique, d'Alsace, du nord de la France, de l'Est, de Bordeaux. Enfin, ça vient. Bon, les gens qu'on voit souvent sur les festivals ailleurs, qui sont. Bon, on a une petite famille au niveau des festivals à se croiser assez souvent. Je pense que tout le monde fera, grosso modo, tous les gens qui aiment bien prendre la voiture pour aller écouter de la bonne musique seront là. On a le double de réservation de l'an passé, et je pense que c'est pas fini, on a une
salle. Alors voilà, pour être tout à fait clair, la jauge de la salle, elle n'est pas forcément extensible. Tu peux recevoir combien de personnes au maximum?
Bah, disons que la jauge a été calculée bizarrement. La jauge officielle est 660, mais si on prend les normes officielles pour ce genre de lieu, on pourrait monter à 1200 personnes sans aucun souci. Quoi. Donc, on va respecter la jauge de la salle qui est de 660, mais c'est les conditions de confort qui sont... On n'est pas dans une fosse au Stade de France écrabouillée par...
Oui.
C'est rien à voir.
Alors, on était sur le Vendredi 6 avec Chris Bergson et Guy Verlaine. On va continuer sur les soirées, puis on évoquera ensuite les concerts gratuits en extérieur. D'accord. Si tu veux bien. Le samedi soir, il y a Isaiah. Alors, c'est la seule artiste que je ne connais pas. Je te laisse nous la présenter, du coup.
Alors, Isaiah, c'est un peu... Ce sont deux sœurs, deux jumelles d'Aix-en-Provence, qui ont un parcours assez... Bon, c'est vraiment des gens qui sont dans le blues, mais bon, toujours un petit peu à côté, donc maintenant on les met dans l'Americana, hein, c'est comme on fait.
Oui, c'est pratique,
pas les équipés, on met dans l'Americana, comme ça on est tranquille.
Ouais.
Mais bon, voilà, c'est du folk blues. Là, il y a un peu de machine, maintenant, bon, c'est décalé par rapport au reste de la programmation, mais elles sont venues chez nous il y a 4 ans, et c'est pareil, elles nous ont mis une claque, parce que c'est vraiment... C'est complètement... une démarche originale, un univers complètement barré, quoi. C'est, ça fait penser un peu à des gens qui font du blues des Appalaches, gens comme Chapelle ou des gens comme ça, quoi.
D'accord. Alors ça, c'est pour ouvrir la soirée du samedi, puis voilà. Ensuite il y a un artiste que je connais bien, mais seulement pour l'avoir vu en solo ou en duo ou voire en trio, mais là ça va être avec son band, et je crois qu'on l'attend de pied ferme, parce que malheureusement, avec ce disque qui était sorti chez Dixie Frog il y a 2 ans, on attendait une série de dates et il a jamais réussi à vendre ce projet, ou si peu. C'est le Bo Weevil Band. Alors là, ils seront là tous les 6, tu le confirmes?
Ils sont en sextet, oui. Alors effectivement, Matt a toujours eu du mal à vendre le truc, parce que on connaît tous l'économie, le problème de l'économie de la musique.
Et oui.
Quand on met cette personne sur la route, c'est compliqué de payer tout le monde. Donc voilà, comme.
Il pourrait faire, je sais pas, tiens, ce soir t'es pas payé, puis demain c'est moi.
Non, ça se fait, je sais que ça se fait. Hein, ouais, bon, c'est vrai que si on veut respecter les artistes et payer tout le monde, quand il y a 7 personnes sur la route, ça fait un beau billet à sortir. Donc effectivement, les clubs, ça, c'était un petit peu compliqué. Bon.
Et donc là, c'est l'occasion de programmer. Alors,
exactement.
Moi, je m'étais dit, 2 ans après la sortie de l'album, les garçons, ils se sont un petit peu découragés, et c'est vrai qu'ils jouent tous dans des projets différents. Je pense par exemple à Igor, le bassiste, qui est lui toujours à fond dans Molten Milk. Mais là, voilà, t'as réussi à les
voilà. Quand j'ai appelé Matt, j'ai dit, écoute, nous, on voudrait que tu sois là, et puis, on va discuter un peu. C'est vrai que nous, on l'a vu en solo, on l'a vu en duo, je l'ai vu en trio, enfin, je l'ai vu un peu dans toutes les configurations possibles, et puis voilà, on s'est dit, bon, allez, on a quand même un budget artistique pour ce festival, donc allons-y pour le sextet. Donc ça sera une découverte. Bon, on a déjà eu Matt ici, mais ça sera une découverte
En sextet. Information au sextet.
Voilà.
Je te coupe 30 secondes juste pour te dire que cette deuxième heure va se terminer, donc sois pas inquiet, il va y avoir un générique, mais l'émission en direct n'est pas finie. Par contre, l'émission en différé, celle du samedi suivant, est bel et bien finie, on va laisser la place aux autres, et puis bien sûr sur le podcast, ça continue. On est ensemble jusqu'à 16h, hein. On est toujours à l'écoute de Sweet Home Chicago, c'est le 1019e numéro aujourd'hui, avec tout à l'heure Fabrice Bessois, Nico Wen Toussaint, et là actuellement, c'est Dominique Bouillon qui répond aux questions de Sweet Home Chicago pour parler du bar 2017, 3e.